Ça va? Parce que ensuite, c'est une suite de fiches de travaux qu'on va balayer, parce que c'est le côté pratique du travail. Là, c'était l'aspect au fond théorique, démonstration, mode d'emploi. Et ensuite, ce sont des fiches très pratiques. Ben, vous allez voir, si vous avez le courage, on va toutes les passer. Sinon, ben, on s'arrête là. Je peux les passer très rapidement. L'isolation des planchers, donc on parle par des croquis, et par des petits textes de la façon de faire, de l'intérêt de le faire, etc. Je passe très rapidement. L'isolation des combles, ben, y a rien de nouveau. Hein. Tout ça est d'une grande banalité, mais effectivement, on voit bien que si on peut faire ça sur un... jeter, dérouler de la laine de verre ou jeter des paillettes, comment on appelle ça, zut, je parle du terme, m'échappe directement, c'est à tout ou rien. Si on doit faire un complexe pour avoir des pièces habitables, ben c'est plus complexe. Surtout si la pièce est 10 actuellement, il faut casser le plafond, le refaire et tout. L'addition monte tout de suite, ce qui expliquait les très grandes différences sur le tableau. Les tableaux correspondant à chacune des maisons. Isolation des murs, alors ça c'est quand même intéressant, ça montre l'intérêt du complexe chauchant, enfin de l'enduit chauchant, qui peut se mettre en grande épaisseur, qui peut se mettre aussi à l'extérieur. Là on l'a mis que à l'intérieur, mais dans certains cas il n'est pas exclu de mettre à l'extérieur et à l'intérieur. Et puis le complexe habituel, c'est la cloison de doublage avec ventilation sur l'arrière. Un petit croquis qui illustre la question de l'homogénéité de l'isolation. En fait, sauf des points d'humidité ou de condensation qui, par jeu de parois froides, au fond, l'économie est proportionnelle à la surface isolée. Et si vous avez une belle pièce, là c'était le cas avec un décor du 19e, avec des moulures au plafond, avec une cheminée, avec une simèse au sol. Bah, il ne faut pas isoler, tant pis, vous allez perdre 2%, 1%. Question de l'isolation par extérieur, dans le cas qui nous concernait, on l'avait accepté dans le cadre du secteur sauvegardé, exclusivement sur des extensions sur l'arrière ou la reconstruction d'extensions déjà existantes. La question des vitrages, des baies, remplacement des baies, on a largement parlé. Bon, soit c'est un survitrage, donc on a fait une sorte de zoom sur le survitrage. On a fait aussi, il y a une possibilité qui tout à fait que vous connaissez, j'imagine, à notre naissance, bien entendu, qui est de mettre du double vitrage dans des menuiseries existantes. C'est pas toujours possible, mais ça l'est parfois et c'est pas du tout négligeable. Ça s'est fait pas mal à Poitiers. L'une des maisons avait été partiellement équipée comme ceci. Bien entendu, des doubles vitrages, qui sont des doubles fenêtres, alors qui ne sont pas simples, parce qu'on se trouve quelquefois dans le cas de porte-fenêtre avec un balcon ici, mais très couramment, c'est une fenêtre et à l'arrière, bon, la lèche est réduite, quelquefois de même épaisseur, mais la plupart du temps, donc la lèche est réduite à ce niveau-là, et donc, la deuxième fenêtre, elle se comporte un peu comme une porte-fenêtre. Enfin, vous en connaissez les avantages et les inconvénients. Un des inconvénients, évidemment, étant d'absorber un peu plus de lumière. L'un des avantages non négligeables et beaucoup utilisés étant d'absorber les bruits de la rue. La question d'ajout d'une véranda, bon, bien entendu, en vie courante de la maison, on ne va pas le faire, mais à chaque fois qu'on change de propriétaire, bon, vous voyez bien, ça se fait. Alors, ça, ce sont des travaux, évidemment, qui vont changer l'aspect de la maison. Si la façade est protégée, ça va poser des problèmes et ce sera envisagé peut-être au cas par cas. Mais il y a beaucoup de façades non protégées, surtout les façades arrière, où ces choses sont totalement admissibles. Donc c'est un gain d'isolation et surtout un gain. Alors, il y a deux façons d'envisager. C'est la serre froide, c'est-à-dire que ce n'est pas une pièce habitable, elle est vraiment séparée du reste de la maison, ou la non chauffée, donc on va avoir un gain d'isolation, et puis la serre ouverte, donc on va avoir pas avoir de gain d'isolation, parce qu'on va augmenter la surface, mais on va avoir un gain de volume habitable, au total, quelque chose de beaucoup plus rationnel, et peut-être surtout beaucoup plus d'appellement de vie, de lumière, ce qui n'est pas négligeable dans les centres-villes souvent. Bien entendu, si selon l'orientation, il faudra se protéger du soleil et peut-être aussi faire simplement une toiture non transparente. Le contrôle de ventilation, bon, faisons très court. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'obligation de faire une ventilation mécanique. lorsque on change d'évêque. C'est absolument nécessaire, autrement avoir vraiment des désordres liés à des points d'humidité, des points de condensation, donc c'est absolument nécessaire. Bon, trop problème, ce sont les bouches des ouvertures d'air dans les baies, elles ne sont pas obligatoirement dans les baies, on peut les cacher au niveau du linteau, mais ce n'est pas la façon la plus courante de faire. Et puis l'évacuation, évidemment, on recommande que ce soit dans les conduits existants, qui sont en général en grand nombre et peu utilisés, mais c'est toujours un petit peu plus complexe, et ça demande en même temps d'entretien des conduits, ce qu'on souhaite ardemment. Une deuxième solution qui est beaucoup meilleure théoriquement, mais peu applicable, c'est la ventilation double flux. En réhabilitation, sauf si on fait tomber tout l'intérieur et qu'on reprend à zéro, on fait la boîte dans la boîte, c'est toujours très 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 contraignant et dans la pratique ça se fait guère. Mais effectivement, là il y a une vraie économie, c'est-à-dire qu'on va chauffer l'air qui rentre avec l'air qui sort, et l'économie, je ne l'ai pas montré dans le tableau, elle est de 15 à 20%, c'est quand même pas du tout négligeable, et ça s'amortit très bien. Mais l'installation de ce dispositif est en général trop compliquée. La question de l'amélioration des appareils de production, bon, on en a parlé tout à l'heure, la grande mode actuellement sur les chaudières à condensation. Les chaudières à condensation, dans les cas qui nous concernaient, on pouvait en général les mettre dans la cave, ce qui ne posait pas de problème. À ce moment-là, on réutilise le conduit, du point de vue aspect, ça marche très bien. Du point de vue position de la chaudière, ça ne pose pas de problème. Du point de vue du temps de tirage entre le ballon d'eau chaude qui est compris dans la chaudière et les pièces d'eau, c'est pas trop mal, mais on sait que très souvent, on est dans cette situation, c'est une chaudière murale, parce que ces chaudières sont souvent, peuvent avoir des volumes assez petits pour des logements de petites, évidemment de petits volumes, mais des logements ordinaires se chauffent facilement avec une chaudière murale, et à ce moment-là, on a souvent un tampon extérieur. Avec cette entrée, vous avez l'habitude de voir ça dans les rues, c'est franchement assez moche. Donc, on donne des préconisations pour que ce soit mis de façon discrète, si possible, vers les jardins, où ça peut être masqué avec des plantes grimpantes, etc. La question de la production d'eau chaude sanitaire, je viens d'en parler sans aborder directement ce chapitre, et évidemment la question des capteurs. Les capteurs sont soit pour les chaudières sanitaires, soit des capteurs photovoltaïques. Bon, c'est assez contradictoire avec l'idée de protection du patrimoine, ça pourrait être tout un débat. Peut-être que des techniques nouvelles vont permettre d'améliorer l'intégration, mais dans le cas qui nous concernait, donc, on avait retenu la possibilité de créer des extensions dédiées à ça, dans lesquelles il y a peut-être la cuisine, il y a peut-être autre chose, je ne sais rien, et qui soient vraiment contemporaines, à l'abri des murs de clôture, auquel cas on considérait que ça pouvait se faire, mais faut-il encore qu'il y ait cet espace et qu'il soit bien orienté, ce qui réduit énormément l'état de figure. Bon, la question de la programmation, bien entendu, ça a une influence, c'est-à-dire que souvent, dans les anciennes installations, c'est mal géré, il arrive à faire trop chaud la nuit et pas assez de jour, etc. Donc, en plus, il faut que le chauffage vivant soit décalé par rapport au mode de vie, compte tenu de l'inertie des murs. Et pour finir, la question de l'amélioration de l'éclairage naturel et artificiel. Alors, bon, là, on se bat contre des choses un peu difficiles, parce que selon la hauteur de la fenêtre par rapport à la rue, évidemment, si on est au rez-de-chaussée, on est très très pénalisé, si on est à l'étage, la question se pose guère. Bon, mais on rappelait quand même que le traitement, alors on a pris des fenêtres sans rideaux, là, bon, c'est un peu exprès, bien entendu, on n'est pas interdit de mettre des rideaux, ne serait-ce que pour protéger l'intimité, lorsqu'il y a des vis-à-vis, mais évidemment, il ne faut pas trop des rideaux trop lourds parce que et qu'ils viennent trop recouvrir la fenêtre, autrement on va tout manger, et puis on va manger toute la lumière. Et d'autre part, évidemment, il y a tout intérêt dans ce cas-là à éclaircir la fenêtre au maximum. On rappelle par cette image qu'une grande partie de la lumière est de la lumière réfléchie. Donc, il y a des appartements où il y a des boiseries ici, des magnifiques boiseries. Dans tous les cas, il faut évidemment que cette partie soit claire. la réflexion, même, surtout quand on est à soleil direct, on a une réflexion immédiate, mais il faut bien considérer que l'éclairage du logement n'est pas uniquement un éclairage au moment où il y a du soleil, mais un éclairage de tous les instants. Et on finit ce document, je suis toujours dans le document, qui est d'ailleurs que vous pouvez voir directement sur le site du Grand Poitiers, par un certain nombre d'autres, d'autres chiffres et matériaux qu'on ne va pas aborder ici, avec des smiles, bon, c'est un peu bébête, avec des euros, je ne vais pas m'attarder à ça. Et puis quelques abréviations, parce que dans ce domaine-là, dans les documents que vous feuilletez, il y en a plein dont on donne la définition en clair autant que possible. Alors, j'étais un peu long, probablement en même temps un peu rapide. Est-ce qu'il y a des questions qui peuvent surgir quand même ?
Merci infiniment, monsieur Lemoine. J'avoue que c'est une étude que je trouve particulièrement édifiante.
Édifiante, voilà le mot.
Je pense à votre
merci tableau. Pour le mot édifiant.
Est-ce que l'on peut revenir juste un instant sur le tableau que vous avez mis sur les avortissements, si je ne dis pas de...
Ah, c'est celui qui plaît toujours. C'est le tableau qui plaît. On va y revenir.
Et j'imagine qu'avec un tel tableau, vous n'avez pas pu faire que des amis sur ces...
Si, en fait on a fait, au début, on avait fait nous-mêmes, nous avons fait sur ce tableau nous-mêmes et le Grand Poitiers, un peu, comment on appelle ça, d'autocensure. Et puis on l'a mis, finalement, il apparaît dans le document qui est sur Internet. Et on s'est dit, bon, il faut mieux le mettre. Et ça montre aussi que la motivation n'est pas uniquement, il ne faut pas considérer que la question de l'isolation thermique, de l'optimisation thermique des bâtis, est uniquement une affaire d'argent. C'est aussi une histoire de confort, ce n'est pas négligeable, et de citoyenneté. Et aussi, évidemment, de l'argent, on n'a rien sans rien, et il ne faut peut-être pas, si vraiment on a quelque chose qui est intéressant à isoler par l'extérieur en réhabilitation, parce qu'en construction neuve c'est bien différent, si la maison est conçue pour être isolée par l'extérieur, ça reste d'une manière générale plus cher, mais pas évidemment dans ces proportions. Je ne veux pas, surtout pas moi qui ai une maison isolée par l'extérieur, faire la peau de l'isolation extérieure, mais pour une maison en réhabilitation c'est impossible, c'est pas rentable et c'est impossible pour des raisons de respect du patrimoine.
Dans les coûts pour l'isolation par l'intérieur, est-ce que vous comprenez les coûts induits, c'est-à-dire refaire la plomberie, refaire toute la peinture, voilà tout ça, parce que...
C'est évidemment la grosse, mais c'est fait à partir de ratios, c'est pas moi qui avais les chiffres, parce qu'on ne pratique pas énormément ce type de travaux, c'est le bureau d'ingénieurs que je n'ai pas présenté, j'ai parlé de Dominique Grelot. Le bureau d'ingénieurs, c'était un ingénieur thermique bien planté en France et assez compétent, je crois, qui s'appelle Pouget Consultant, qui est une agence à Nantes. Nous avons travaillé pour cette opération sur cette étude avec Vincent Brère, et c'est lui qui avait, dans le cadre de ce bureau d'études, des chiffres qui incluent tout. Qui forfaitèrent à partir d'opérations qu'ils ont réalisées, ils savent que de changer, justement tout est induit dans ces coûts-là. Mais tout, d'une maison à l'autre, c'est tellement variable, c'est pour ça qu'il faut faire très attention.
Dans les maisons anciennes, souvent les clôtures sont dans les murs, donc là il faut tout refaire, parce que du coup en isolant par l'intérieur, on met les tuyaux à l'extérieur. C'est comme si on mettait les tuyaux à l'extérieur.
Déplacer les corps de chauffage, etc. Enfin, il en est de même d'ailleurs pour lorsqu'on veut mettre des doubles vitrages, des doubles fenêtres. Souvent, on va choper à être sur la position du radiateur, qui ne doit évidemment pas se situer entre les deux fenêtres, ça ne marche pas. Donc, ça augmente sérieusement le coût. Alors, bon, tout ça est fait avec des ratios un peu à la grosse, mais vous voyez que, de toute façon, ce qui nous intéresse, sans se détourner dans des lignes où on a plus de 50 ans d'années de retour, ça ne veut rien dire. Donc, ce qui nous intéresse, c'est quand on est vraiment dans des 6 ans, 10 ans, 20 ans même, Le reste, c'est, on a mis les chiffres pour dire que de toute façon, c'est pas ça la motivation. Dès qu'on a plus de 20 ans, c'est plus la motivation.
Bonjour. Je voulais dire par rapport à l'éducation extérieure, il y a une étude qui était faite par HEN, l'énergie naturelle, qui démontrait que c'était surtout à cause des entreprises que l'éducation n'était pas si bien faite. Et il y a pas de milliers de coûts. Par contre, comme vous avez dit, c'est pas forcément le premier poste, ça coûte très cher, donc il faut plutôt utiliser sur les chaudières, enfin d'autres limiter les coûts. Ce qui est dommage, c'est votre étude de Poitiers, parce que vous avez vu que sur Poitiers, vous avez fait énergie gaz et chauffage électrique. Et on voit souvent sur énergie bois, l'énergie primaire baisse vraiment significativement.
Alors, pardon, oui, je suis passé rapidement sur les modes de chauffe, mais on envisage évidemment, vous regardez dans la fiche, on a l'idée du poêle et du chauffage avec les granulés, etc., poêle à bois. Ceci dit, notre document s'adresse à des urbains, vrais urbains, là, c'est notre centre de Poitiers, pas uniquement parce qu'au fond, c'est diffusé pour les gens qui peuvent habiter hors de la ville un petit peu, et bon, ce ne sont pas des dispositifs très utilisables, c'est pas impossible, hein, absolument, mais c'est quand même, ça ne s'impose pas. Dès qu'on va à l'extérieur de la ville, c'est plus facile à installer. Et en particulier, si on parle de poêle, bon, il y a des gens qui ont des sources d'approvisionnement en bois, etc., ça marche. Alors, pour revenir à. Mais ça explique pourquoi on n'a pas développé ça, mais on a peut-être tort, et d'autant que les modes, les appareils de chauffage de ce type-là sont en train d'évoluer, devenir beaucoup plus compacts, beaucoup plus faciles à utiliser. J'ai un ami, j'ai appris récemment qu'il a installé ça chez lui, pas en plein centre de Nantes, enfin vraiment dans Nantes, dans une maison de ce type-là d'ailleurs. Et la question de l'isolation par l'extérieur, alors on peut nous dire qu'on est un peu de mauvaise foi, ce n'est pas complètement faux, parce que comme dans le secteur sauvegardé, et même hors du secteur sauvegardé, dans l'habitation des maisons anciennes, on ne souhaite vraiment pas, voire on interdit par la réglementation des documents d'urbanisme, l'isolation par l'extérieur, au moins dans les façades sur rue. Évidemment, on n'était pas là pour promouvoir ça. D'ailleurs, dans le document que je vous ai montré, on envisage uniquement l'isolation sur cour. Alors, j'ai dit aussi, mais il faut, je le répète, et ça vous donne raison, c'est que c'est à partir des grilles de calcul conventionnelles d'aujourd'hui, lorsqu'on saura calculer de façon dynamique la transmission à l'intérieur d'un mur, c'est quelque chose qui va. On sent bien que ce n'est pas satisfaisant, ça doit être meilleur que ça. Il n'y a pas. Actuellement, on ne calcule que ce qui est pris en compte, au fond, ce ne sont que les ponts thermiques. Donc, ce n'est pas énorme. Les ponts thermiques, on a vu, c'est moins de 10% de déperdition. Mais si on parle des gains, surtout si le mur est bien orienté, c'est là où j'en ai parlé lorsqu'on parlait de la rotation de la maison, ce n'est pas satisfaisant. On sent bien que ça ne doit pas être plus que ça. Mais je redis, nous sommes dans le cadre, nous comparons la réalité des consommations avec le calcul conventionnel, traditionnel, celui qui est fait dans tous les bureaux d'études aujourd'hui, en espérant qu'il sera un peu fini. Donc ces postes-là, évidemment, sont vus de façon probablement défavorable. Mais bon, pour revenir à ce que vous disiez sur l'isolation par l'extérieur, en réhabilitation, de toute façon, ça demeure cher, et puis peut-être aussi que les entreprises ne sont pas très habiles, ne savent pas bien le faire, et ceux qui le font, alors là je suis méchant, mais c'est toujours absolument minable, parce que quand ça se fait à moindre coût, peut-être c'est satisfaisant pour l'isolation, mais c'est avec des bardages de PVC, etc., des dentifrices, enfin, bon, c'est absolument abominable, et comme on défend le patrimoine, on ne peut même pas parler de ça. C'est... Mais il y a des façons satisfaisantes de faire de l'isolation par l'extérieur, spécialement dans les maisons neuves, et dans des réhabilitations de maisons peut-être qui n'ont pas de valeur patrimoniale, ou du moins auxquelles on ne donne pas de valeur patrimoniale, parce que je n'ai pas du tout parlé, on a parlé que des maisons à gros murs, hein. On n'a pas du tout parlé de la génération sacrifiée des maisons à murs de parpaing.